Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Un peu plus de 4 mois de la présidentielle américaine, Donald Trump est en difficulté. Il doit faire face aux conséquences économiques et sanitaires de la pandémie de Covid-19, aux manifestations antiracistes. Le président est en retard dans les sondages nationaux et son meeting de rentrée à Tulsa n'a pas été le succès espéré. Et pendant ce temps, le candidat démocrate Joe Biden mène lui une campagne à l'opposé, discrète, respectant scrupuleusement port du masque et distance physique, embrassant le discours national sur le racisme systémique. Le contraste avec Donald Trump est saisissant, mais les démocrates américains font-ils la bonne campagne? C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, 3 invités sont en direct avec nous par téléphone ce soir. Anne Desine, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre et auteur de Les États-Unis et la démocratie aux éditions de l'Harmattan. Laurence Nardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme États-Unis de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous animez le podcast Trump 2020. Et Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire aux grandes écoles et spécialiste des États-Unis et chroniqueur pour le site Les Jours. On va quand même commencer, avant de parler de Joe Biden, par parler de Donald Trump, qui est le sortant, celui que les démocrates veulent et doivent battre s'ils veulent accéder à la Maison-Blanche. Anne Desine, il n'est donc pas au mieux, on le voit depuis plusieurs jours. Est-ce que ça va si mal que ça?
En fait, ça va très mal depuis le début, et depuis le début, il y a eu une série de catastrophes et il n'y a pas eu de conséquences. Donc la différence ici, c'est que ce soit les manifestations par Black Lives Matter, etc., que ce soit quand même un début de prise de conscience que le président ne fait pas ce qu'il faut pour le Covid-19, et qu'en particulier, vous savez, la petite clause, les gens qui voulaient assister au meeting devaient s'engager à ne pas poursuivre l'administration Trump s'ils attrapaient le virus. Donc petit à petit, ça pénètre dans l'opinion. Et puis, il y a quand même un énième limogeage d'un procureur fédéral après les inspecteurs généraux, etc. Donc, la prise de conscience que, quelque part, il n'accepte pas les règles du jeu démocratique ni les fameux contre-pouvoirs du système américain. Ça se traduit dans les sondages. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, Joe Biden serait élu. Mais les scandales glissent tellement bien sur Trump, on ne sait pas ce qui va se passer au mois de novembre. Que peut-il se passer? Ça peut empirer. Si, comme le docteur Fauci le dit, il y a une deuxième vague du virus, là, ça ira très très mal parce que les gens ont peur pour leur santé. Or, Trump continue de dire qu'il est contre le programme santé du président Obama, qu'il est bien sûr contre Medicare for All, donc une sorte de Medicare, c'est le programme pour les plus de 65 ans, et que les démocrates à gauche veulent généralisé à tout le monde. Et là, dans les tractations entre Biden et Sanders, il serait question au moins de l'accorder à ceux qui ont 55 ans. Enfin, bon, les pourparlers sont en marche entre le camp modéré chez les démocrates et le camp progressiste, donc Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, etc. Donc ça, c'est pas si mal que ça, parce que Biden, il est pas bon, hein, c'est un candidat par défaut, c'est clair. Il n'est pas charismatique ni rien, mais c'est un pragmatique et il est bon pour monter des coalitions. S'il accepte que les idées qui sortent des 6 groupes de travail, dont l'un sur le changement climatique, un autre sur la sécurité sociale, donc la couverture médicale, s'il accepte les propositions progressistes de ces groupes de travail qui sont composés à la fois de John Biden et de John Sanders, peut-être qu'il peut y avoir une petite dynamique à la campagne démocrate.
Oui. Laurence Nardon, comment va réagir la campagne Trump? C'est évident qu'il va y avoir une réaction, ça ne peut pas durer comme ça. Il reste d'ailleurs du temps pour réagir, un peu plus de 4 mois, il peut se passer des choses? Il peut y avoir une botte secrète?
Pour l'instant, ça paraît pas prendre le chemin d'un rétablissement. En fait, on a l'impression que bon, depuis le début, depuis la victoire de Trump dans les primaires républicaines en 2016, donc avant son élection, le parti républicain est complètement sidéré devant Trump, si vous voulez. La plupart des républicains de l'establishment n'aiment pas du tout le personnage, mais par un mélange de peur, d'intérêt personnel, et de sidération devant le personnage, ils ne réagissent pas. Ça, c'est ce qu'on voit depuis le début. Et du coup, ils laissent le cirque dont Anne Desine parlait il y a une minute se poursuivre depuis bientôt 4 ans. Mais pour la campagne, ça va du coup pas très bien En ce moment, on sait que le directeur de campagne, Brad Parscale, est tenu pour responsable de l'échec du meeting de Trump à Tulsa samedi dernier. Donc, il n'est pas dans les petits papiers du président. Il a peur de se faire virer d'une minute à l'autre. Mais le président en veut en réalité également à Jared Kushner, son gendre à qui il a tout passé jusqu'à présent, parce qu'il pense, il le tient également pour responsable de sa chute dans les sondages. Vous savez, Trump n'est jamais responsable personnellement de rien du tout. Il faut toujours qu'il trouve d'autres coupables. Et du coup, dans la campagne Trump, ça tire dans tous les sens ces jours-ci, comme depuis le début dans l'administration Trump, vous me direz. Mais ça, du coup, n'indique pas vraiment le sens d'un bon rétablissement. Mmh. Et du coup, dans l'opinion, Trump perd quelques points, effectivement.
Corentin Célin, est-ce que finalement, ce ne sont pas les républicains qui ne soutiennent plus Donald Trump ou qui sont carrément contre lui, qui sont les plus durs avec le président? Est-ce que ce n'est pas eux qui font la campagne la plus tonique contre Donald Trump?
Oui, effectivement, on peut le penser, surtout après le tour des médias qu'a fait l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, qui a parlé de son ancien employeur comme une menace pour le pays, qui a dit qu'il s'engageait, lui, à voter pour Biden, ce qui était une énorme surprise, parce que Bolton est un véritable républicain qui représente vraiment la droite néoconservatrice, et il s'est répandu depuis une semaine dans tous les médias nationaux sur l'incompétence de Donald Trump. Alors, sauf que ça a quand même un revers, et certains l'ont déjà pointé. Quand on voit un Bolton avec tout son passif en Irak, évidemment, on s'en souvient dans les années 2000, et avec son passage comme conseiller de sécurité nationale de Trump, qui n'a pas été non plus remarquable, rejoindre Biden. Il ne faut pas que la campagne Biden se transforme en vaste conglomérat des mécontents, sans plus aucune cohérence, sinon l'anti-Trump. Et il y a vraiment un risque, quand on voit ces ralliements successifs, qui peuvent en plus relancer le discours de Trump de l'anti-système. C'est-à-dire, il peut dire, regardez, je vous l'avais dit, c'est tout un système, entre guillemets, je reprends ces termes, globaliste, un système des élites qui se retournent contre moi. Il faudra donc faire attention pour Biden à ne pas aller trop large dans les ralliements. Et je pense que là, par exemple, avec John Bolton, on est un peu arrivé à l'extrême qu'on peut atteindre, c'est-à-dire qu'avoir un électorat qui va de Ocasio-Cortez à Bolton, ça fait quand même très très loin à rassembler pour Biden.
Anne Desine, les démocrates, et je rebondis là-dessus, sont-ils sur un schéma qui ressemblerait un petit peu à celui de 2016, c'est-à-dire en train d'imaginer que Donald Trump est tellement outrancier, il a tellement de monde contre lui que c'est pas possible qu'il ne peut pas gagner? Est-ce qu'il y a un risque là, qu'on soit un petit peu en excès de confiance?
Non, justement, je parlais à quelques amis qui font partie des cercles démocrates, et en particulier des Democrats Abroad, ceux qui représentent les démocrates à l'étranger. Ils se sont fait taper sur les doigts en 2016, et maintenant, ils sont très, très, très cautionneux, c'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui disent « oui, les sondages, mais nous savons que », etc. « Fichier national, ça ne compte pas ». Donc, ils sont en train de mettre l'accent sur un vrai programme, donc qui va sortir avec un petit peu de chance de ces groupes de travail qui deviendra la plateforme, donc le programme du Parti démocrate. Et surtout, ils mettent l'accent sur un vrai problème qui est l'accès au droit de vote. Parce que faut pas oublier que depuis 2010, et avec une accélération depuis 2016, les républicains s'efforcent dans les États qu'ils contrôlent, et c'est beaucoup, c'est la majorité, de réduire l'accès au droit de vote pour tous, enfin aussi pour, et surtout pour les démocrates, en exigeant certaines choses, en fermant des bureaux de vote, et en particulier en refusant le vote par correspondance. Ce que refuse aussi le président Trump en disant « oui, c'est la porte ouverte à la fraude électorale », alors qu'il n'y a pas de fraude électorale et que les 5 États qui ont le vote par correspondance n'ont pas de fraude électorale. Donc en fait, les démocrates, ils travaillent à la fois sur le programme, ils ne considèrent pas que la victoire est acquise, loin de là, et ils travaillent sur ces sujets. Et puis, dans un des groupes de travail sur la justice pénale, la réforme de la justice pénale, et en particulier dans l'optique de tous ces Noirs et Hispaniques qui sont emprisonnés, il y a l'ancien ministre de la justice d'Obama, Eric Holder, qui travaille sur tous ces sujets. Donc, les démocrates travaillent sur le fond des questions. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de feuilletons chaque jour, et il y a ceci, il y a cela, il y a le meeting, et est-ce que c'est TikTok qui explique qu'il n'y a qu'un tiers des présents à cette campagne électorale, etc., que les démocrates qui travaillent pour une fois un peu en profondeur et qui essaient de minimiser les divergences entre les deux camps, donc les modérés et les libéraux, les progressistes, on n'en parle absolument pas dans les médias. Je veux dire, il faut vraiment chercher un article, et même le New York Times ou le Washington Post, bon, cette semaine c'était beaucoup la Cour suprême aussi, avec ces deux décisions surprises, ne nous frottons pas les mains, hein. L'une c'est une décision de droit administratif, de procédure administrative, donc le Chief Justice ne prenait pas trop de risques, l'autre est plus intéressante concernant le droit des homosexuels. En revanche, comme les républicains vont contester ce type d'égalité en arguant de la liberté religieuse, on n'est pas sorti du bois. Mais c'était en tout cas un retournement intéressant, mais qui fait une fois de plus qu'on n'a absolument pas parlé du fond de ce que veulent les démocrates.
Oui, Laurence Nardon, est-ce que les démocrates arrivent à imposer des thèmes de campagne, à imposer des idées ?
Comme le dit Anne, effectivement, il faut un peu chercher pour voir ce qui se passe. Je pense qu'on est quand même à un moment intéressant de cette séquence Trump qui dure depuis 4 ans. Parce que après avoir dit, mais littéralement tous les mois, que peut-être même toutes les semaines, que Trump avait franchi la ligne rouge et que l'opinion allait se retourner contre lui, chose qui ne s'est à présent jamais produite, parce que en réalité, lorsque Trump transgressait une norme sociale en se moquant d'un handicapé ou en faisant des déclarations racistes, en réalité, sa base populiste n'en était que confortée dans son amour, sa dévotion pour cet homme politique si particulier, parce que cela prouvait que c'était un transgressif et qu'il était en réalité de leur côté. Cette phase, je me demande, mais alors, je parle avec beaucoup de guillemets et de conditionnels, mais tout de même, au printemps 2020, on peut effectivement se demander si la goutte d'eau qui va faire déborder le vase trumpien n'est pas en train d'arriver avec tous les problèmes qu'il a eus depuis quelques mois, ces retournements dans les sondages qui sont quand même pas encore définitif, mais quand même significatif. Et je vous apporte une preuve pour terminer ma réponse, c'est que le mois de mai 2020 est le premier mois pendant lequel le financement de campagne obtenu par Biden, qui jusqu'à présent n'était pas très bon dans ce domaine, a dépassé celui de Trump. C'est-à-dire que Biden a recueilli ce mois-ci 80 millions de dollars contre 74 seulement, j'ai envie de dire entre guillemets, 74 millions seulement pour Trump. Et ce soir même, Biden et Obama font une réunion de fundraising virtuelle en ligne, parce qu'une distanciation sociale oblige. Et donc, je pense que ça ne va faire que s'améliorer pour les caisses de campagne du candidat Biden.
Alors vous me tendez une perche que j'avais prévu de saisir, en fait, Laurence Nardon. Corentin Célin, c'est un signal important, cette affaire de Joe Biden qui a levé plus d'argent que Donald Trump sur le dernier mois.
Alors, c'est surtout un signe que la campagne Biden, après des débuts, on va dire, chaotiques, a pris son rythme de croisière et qu'il commence à retrouver les réseaux de financement habituels des démocrates. Il y a un véritable enjeu, parce que contrairement à une perception, populaire, où en 2012 comme en 2016, les candidats démocrates étaient les mieux financés. Obama, au total, si on compte à la fois les campagnes et les associations spéciales qu'on appelle les super PAC, Obama était mieux financé que Romney et Clinton était mieux financé que Trump en 2016. Donc un gros enjeu pour les démocrates de retrouver déjà cette suprématie, parce que ça montre d'une part l'attrait, et puis ça montre le fonctionnement de réseaux de financement. Ça veut dire qu'on a des, ce qu'on appelle des bundlers, c'est-à-dire ceux qui apportent des gros donateurs à des campagnes, que tout ça, ça veut dire que ça fonctionne bien, que c'est bien organisé. Donc c'est un signe positif. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'évidemment, cette levée de fonds a été perturbé par un déconfinement qui était encore inégal au mois de mai, avec des facultés à lever des fonds qui sont quand même réduites encore à cause de la Covid-19. Donc c'est un signe positif, peut-être pas le surinterpréter. Ça veut dire en tout cas que la campagne Biden a commencé à s'organiser. Alors, cependant, je rebondis sur ce que disait Laurence Nardon, avec quand même, on le voit aussi pour le financement, cette manie qu'a un peu Biden de se cacher, de se réfugier derrière Barack Obama. C'est-à-dire que pour l'instant, et c'est valable aussi, on le voit là, avec cette levée de fonds, Il y a quand même une tendance de Joe Biden à s'effacer et à laisser faire Barack Obama, qui a pour l'instant été très paradoxal, signé quelques-uns des moments forts de la campagne Biden, ne serait-ce que par sa déclaration de ralliement, par ses encouragements donnés aux équipes démocrates à se mobiliser, y compris pour le financement d'ailleurs. Donc ça peut être aussi un problème, cette présence qui est très inhabituelle de Barack Obama dans le dispositif.
Oui, Anne Desine, Barack Obama s'engage désormais très clairement aux côtés de son ancien vice-président, notamment depuis qu'il a officiellement remporté la nomination démocrate. Ça pèse comment ? Ça pèse dans un bon sens pour Joe Biden, ou est-ce qu'effectivement ça pourrait être un petit peu trop ?
Non, ça ne peut que peser dans un bon sens. Ce pauvre Biden, il ne devrait jamais être à la place où il est. Il y a eu un alignement des étoiles. Tout s'est passé, le Covid, ensuite vite Pete Buttigieg et Klobuchar qui se sont ralliés. Vraiment, tout s'est passé idéalement, alors qu'il était très mauvais, et ensuite la primaire de Caroline du Sud avec le vote noir. Donc, tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Et Obama est en train de s'en rendre compte. Biden va être élu grâce aux autres, en particulier grâce aux républicains. Il faut parler de ce qu'on appelle le Lincoln Project, le projet Lincoln. Ce sont les républicains, les vrais, qui ne peuvent plus reconnaître leur parti dans ce qu'il est devenu, par ces républicains qui acceptent toutes les horreurs de Trump.
Le parti d'Abraham Lincoln, c'est pour ça que ça s'appelle le Lincoln Project.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, eux ont beaucoup d'argent, ils ont des super pactes, ils sont très réactifs et ils sont déjà en train d'utiliser certaines des horreurs proférées par Trump à son meeting de Tulsa, de façon à ce que ça devienne des publicités négatives, car cette campagne va être très, très violente, très agressive. Et le gros de cet argent dont on vient de parler va passer en publicité négative à 90%, à la fois à la télévision, mais aussi dans les médias sociaux. Et là, on a un autre problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire. C'est que Trump distance de très, très loin Biden pour tout ce qui est réseaux sociaux. Genre, il a 70 millions de... Je ne sais pas le vrai chiffre, hein, c'est peut-être 77, je ne sais pas, sur Twitter ou Facebook. Quand Biden en a 5 ou 6 millions. Or, pour le moment, Trump ment sur les réseaux sociaux, fait des publicités mensongères sur les réseaux sociaux, et on voit bien que jusqu'ici, bon, Twitter a fait un petit quelque chose, mais Zuckerberg et Facebook, pour le moment, freinent des quatre fers et laissent Trump et sa campagne proférer des mensonges et des appels à la haine raciale. Et c'est aussi là-dessus que ça va se jouer. Parce que comment changer l'attitude et l'opinion de certaines personnes qui sont en train de se dire quand même ça va pas très très bien, est-ce qu'on veut vraiment voter pour M. Trump, quand on leur ment en permanence et quand ils cherchent leur information sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un problème.
On va y revenir. J'aimerais juste rester un instant avec Laurence Nardon sur le rôle de Barack Obama. Est-ce qu'il doit trouver le bon niveau d'engagement, ni trop peu, ni trop C'est quand même pas lui le candidat. Hein, même si, apparemment, Donald Trump, il aimerait bien installer un duel avec Barack Obama, parce qu'il parle tout le temps d'Obamagate.
Oui, et il a accusé il y a quelques jours Obama de trahison et a réclamé qu'il soit mis en prison. C'était à la télévision et lorsque le journaliste lui a demandé pourquoi, il a dit « vous le savez bien » et il n'a pas élaboré. Mais alors je voudrais juste, peut-être pas par rhétorique, essayer de défendre Joe Biden que Anne a...
Ouais, elle
vraiment,
a été un peu sévère un petit peu.
Elle a été un peu sévère, mais c'est pour ne pas tirer le mauvais sort sur ce candidat, je suppose. Bref, Biden a quand même des points positifs pour lui. C'est-à-dire que c'est un homme effectivement un peu vieux, un peu fatigué, bon d'accord, mais il a cette capacité d'empathie qui est vraiment ce dont l'Amérique a besoin aujourd'hui. Et dans la séquence que nous venons de vivre avec la mort de George Eliot le 25 mai, tué par un policier, une personnalité comme celle de Joe Biden, à mon avis, est vraiment très très bonne pour justement projeter une image qui va rassurer et rassembler la population américaine. Un autre avantage de Biden, c'est que, en réalité, si on observe ce que dit le président Trump de lui depuis des semaines et des semaines, en fait, Trump a un problème avec Joe Biden, c'est que Joe Biden ne donne pas facilement prise à la méchanceté ou enfin à la communication très agressive de Trump. Parce qu'il n'y a pas de scandale sexuel autour de Biden, il n'y a pas de scandale de corruption autour de Biden. On ne peut pas non plus dire que c'est un extrémiste avec le couteau entre les dents, parce que c'est un modéré, vraiment très modéré. Et du coup, la seule chose que Trump a trouvé à dire sur Biden, c'est Sleepy Joe, Joe l'endormi, c'est son méchant surnom qu'il a trouvé pour Biden. Excusez-moi, mais ça ne va pas très loin. Il ne peut pas l'attaquer sur son âge et sa fatigue parce que lui-même est exactement dans la même situation. Et du coup, je pense que Biden, peut-être le problème avec Obama, c'est que Obama serait une cible peut-être plus facile pour Trump par rapport au vrai candidat Joe Biden.
Corentin Silin. Pendant la campagne pour les primaires démocrates, Joe Biden était dépeint ou présenté comme un centriste un peu mou, proche des milieux d'affaires. Est-ce qu'il est en train de mettre un coup de barre à gauche avec tout ce qui se passe aux États-Unis ? Je dirais pas qu'il se radicalise, mais enfin bon, est-ce qu'il est en train d'un peu durcir son jeu ?
Oui, il a, en tout cas, et comme l'évoquait Anne-Désine, pour les commissions programmatiques, il a fait une place importante aux figures de la gauche du parti, et c'était important. C'est surtout, évidemment, ça nous amène à ce qui va être, à mon sens, l'événement décisif des prochains mois de campagne pour lui, c'est-à-dire le choix de sa vice-présidente, puisqu'on sait que ce sera une colistière. Et là, il est extrêmement scruté parce que l'affaire George Floyd a totalement changé les circonstances du choix, à tel point d'ailleurs que ça aussi, c'est assez inhabituel. Certaines candidates pressentistes se sont retirées, hein, comme la sénatrice Élie Klobuchar, qui était sans doute favorite avant les événements, mais qui étant de Minnesota, ayant été procureur, ayant eu des décisions contestables autrefois dans le passé vis-à-vis de la police. Elle a été contrainte de se retirer et a dit elle-même qu'elle souhaitait que Biden choisisse quelqu'un issu des minorités, choisisse une femme issue des minorités. Et par ce choix, il peut encore consolider, j'allais dire, cet élargissement à gauche qu'il a entrepris. Alors, il y a beaucoup de noms qui sont évoqués. Le problème qu'il a, d'ailleurs, c'est que parmi les postulantes afro-américaines, il y en a beaucoup qui sont des centristes comme lui. Alors, c'est assez amusant, parce que s'il choisissait, par exemple, la maire d'Atlanta, Keisha Bottom, dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est une centriste comme lui. Donc, il a un peu une double contrainte, c'est que il est contraint de faire un choix significatif qui parle aux minorités qui sont soulevées qui ont été tellement heurtées par cette affaire George Floyd. Et en même temps, il va aussi faire un choix d'élargissement un peu à gauche. Et les deux ne vont pas forcément ensemble. Mais ce choix de la vice-présidente sera vraiment décisif de ce point de vue vis-à-vis d'elle gauche.
Anne-Désine, ce serait quoi un ticket complémentaire ?
Oui, je suis d'accord, parce qu'en fait, il faut... C'est intéressant, le dit justement de Amy Klobuchar, je suis tout à fait d'accord, parce qu'elle aurait été, elle était bien. Mais elle a un passé de procureur. Or, beaucoup des candidates noires ont aussi un passé de procureur, en particulier Kamala Harris. Et elle aussi aurait des casseroles, parce qu'elle s'est montrée assez ferme, en particulier contre les Afro-Américains. Donc... La maire d'Atlanta, c'est bien, mais peut-être elle n'a pas la bouteille qu'il faut. Il lui faut quelqu'un. Alors, c'est compliqué. Habituellement, le vice-président, là, Biden a été choisi par Obama parce qu'il pouvait négocier avec le Congrès. Donc, si Biden choisit quelqu'un qui est au Sénat, par exemple, bon, on peut penser qu'il y a ça. Mais on peut penser que Biden sait déjà négocier avec le Congrès, donc il a peut-être besoin de quelqu'un qui a plus de punch. Mais pas trop de punch et pas de passé de procureur. Et quand on étudie la liste des douzaines, enfin, il y a de moins en moins de noms, parce qu'entre les blanches qui se désistent et celles qui se disent qu'avec leur passé de procureur, ça ne passera pas, on est plutôt à 6 noms maintenant qu'à 12. Et c'est un petit peu, mais c'est à chaque fois la quadrature du cercle, parce qu'il faut que, ici, la colistière, puisqu'on sait que ce sera une femme, remplisse beaucoup de cases, et ce n'est pas si facile.
Laurence Nardon, un avis là-dessus sur le choix de la future vice-présidente, si Joe Biden est élu, bien sûr.
Oui, effectivement, c'est la quadrature du cercle, hein. Corentin et Anne ont tout à fait raison, parce qu'il lui faut quelqu'un bon, une femme, il s'est déjà enferré en disant que, en réduisant de moitié son champ de candidats possibles. Maintenant, il faut que ce soit une femme issue d'une minorité. Effectivement, ce serait parfait, mais il n'en trouve pas qui soit de la venue de la gauche du parti. Et donc, ça ne va pas. Alors, je ferai une hypothèse parce que il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, on annonçait l'annonce de cette VP pour le mois de juin, et maintenant, on voit que enfin, les documents du parti indiquent que le nom sera annoncé avant le 1er août, donc fin juillet. Et je me demande s'il n'y aurait pas une possibilité dans la campagne Biden de se dire on va laisser retomber, comme on ne trouve pas de candidate noire qui fasse l'affaire et que c'est très embêtant parce que Kamala Harris, le passé de procureur, etc., les deux autres experts l'ont dit. Peut-être qu'une solution pour la campagne Biden serait d'attendre de voir si la vague Black Lives Matter retombe, auquel cas, dans quelques semaines, il serait possible de revenir à des choix de femmes non, non racisées et reviendrait dans ce cas-là Elizabeth Warren, qui sur le plan idéologique, pas sur le plan de la couleur de peau malheureusement, mais sur le plan idéologique, serait un complément idéal au ticket de Joe Biden.
Même si elle a longtemps revendiqué des origines amérindiennes.
Oui, ça c'est une autre affaire.
Corentin Célin, j'aimerais qu'on parle un petit peu de sondages. Les sondages nationaux, on l'a dit, sont favorables à Joe Biden et l'écart a même tendance à se creuser. Mais dans les États clés, les fameux swing states, on en est où ? Il en est où cet écart ?
Alors, l'écart s'est quand même aussi creusé et à tel point qu'aujourd'hui, il y a des États qui tendent à devenir des swing states auxquels on ne pensait pas du tout. Par exemple, il y a 4 ans, cette année, l'Arizona, hein, qui est quand même assez incroyable, pourrait tout à fait basculer du côté démocrate. Cependant, on restera très prudent, surtout sur un point, c'est que, bon, bien sûr, d'une part, on se souvient qu'il y a 4 ans, à la même époque, on disait sans doute aussi que la campagne de Trump partait dans tous les sens, et c'est vrai qu'elle s'est stabilisée il y a 4 ans, vraiment au tout dernier moment, donc on restera très prudent. Mais d'autre part, il faut faire attention à la mobilisation différentielle, c'est-à-dire qu'actuellement, par l'affaire George Floyd, par tout ce qui est venu après, par le Black Lives Matter, les électorats socles des démocrates sont surmobilisés et ça se reflète dans les sondages. C'est-à-dire que les Afro-Américains, là, ils sont absolument déterminés à chasser Trump de la Maison-Blanche. Mais est-ce que ce sera le cas encore dans 4 à 5 mois ? C'est pas sûr. Et donc, il y a une avance. Par exemple, si on prend les 3 États, les rois du swing state, hein, ceux qui ont donné la victoire à Trump, c'est Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin. Dans les 3, Biden, selon les sondages, il est entre plus 6 et plus 8. Mais tous les sondeurs insistent sur le fait que c'est une avance qui est très fragile, un peu en trompe-l'œil, à cause du degré de mobilisation différencié. Donc, il suffirait que Trump, comme il l'a laissé en 2016, trouve les bons thèmes pour remobiliser son électorat, pour que de nouveau, en particulier dans ces 3 États-là, où vous avez un énorme électorat blanc populaire, blanc non diplômé, donc celui qui vote pour Trump, il se remobilise de nouveau massivement. Donc attention à la lecture de ces sondages.
Anne Desine, en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, elle existe cette campagne dans les swing states. Joe Biden, il a du mal à y aller, il n'y est pas allé d'ailleurs pour l'instant.
Oui, il ne peut pas y aller, c'est pour ça que c'est très difficile de donner une réponse maintenant. Et tout va dépendre de ce que va faire Trump. Je pense que tout va dépendre de ce qui va se passer avec le Covid, de ce qui va se passer avec le taux de chômage. Est-ce que vraiment il y a de nouveau une reprise d'activité avec des créations d'emplois, du retour vers l'emploi ? Cela étant, si les États doivent de nouveau se fermer parce qu'il y a une deuxième vague, alors là, il est clair que dans ces États, y compris avec ces hommes blancs, etc., Biden devrait l'emporter. Surtout si on considère que son taux de soutien chez les évangéliques est aussi en train de baisser pour tout un tas de raisons, et en particulier le fait que la Cour suprême, finalement, ne fait pas ce qu'on attendait d'elle.
Merci. Merci Anne Desine, merci Laurence Nardon et Corentin Célin d'avoir participé à cette émission qui se termine. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous. Demain sur